Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, 5e année, l'hédonisme social. Aujourd'hui, les deux 19e siècles.
Bonsoir, merci d'être là, fidèles au poste, si nombreux, pour ce dernier cours de mon premier quinquennat. Bah oui, ça fait 5 ans. Et pour cette conclusion de la première partie du 19e siècle, je vais faire un petit bilan, bien sûr, de cette première partie du 19e siècle, puisque l'an prochain, on va consacrer l'année à la deuxième partie, à ce second temps que je vous proposerai. Ce sont évidemment des coupures un peu artificielles, mais vous verrez comment tout ça s'articule, comment on peut être dans une perspective collective et communautaire, et puis en même temps être dans une perspective individualiste, puisque il s'agira de la naissance de l'individu cette fois-ci, l'an prochain. Et je vais commencer par faire un petit rappel de tous les dispositifs, appelons ça des dispositifs, mais de tous les dispositifs hédonistes depuis l'Antiquité, depuis le début de cette contre-histoire de la philosophie, de cette université populaire, puisqu'on a démarré, vous vous souvenez, avec les présocratiques, et il y avait des dispositifs hédonistes. Je vais appeler dispositif hédoniste un lieu, une occasion, une circonstance, des gens, des bâtiments, des architectures, la plupart du temps, qui sont des occasions de dire une philosophie ou de montrer une philosophie. On peut imaginer, par exemple, que il y a un prototype à cette aventure, et c'est le jardin d'Épicure. C'est le jardin dont on a eu l'occasion de dire comment il fonctionnait, pour le peu qu'on en sache encore aujourd'hui. La villa également, la villa des papyrus, la villa épicurienne, campanienne. On avait essayé de voir comment ça fonctionnait, ce dispositif-là, le bâtiment, l'endroit, la situation, la bibliothèque, l'iconographie, les sculptures, le choix de tout ce qu'on installe dans ce bâtiment, et puis surtout la façon d'être et la façon de vivre. Il y a d'autres lieux qui sont aussi des dispositifs. L'agora, bien sûr, au sens large et classique du terme, mais le cynosarge, qui est le cimetière pour chiens, ça on avait parlé en son temps de Diogène de Sinope, c'était un dispositif ironique en même temps, puisqu'il y avait d'autres dispositifs qui étaient des dispositifs du lycée. Le lycée, c'était l'endroit où les aristotéliciens se retrouvaient, l'académie, l'endroit où les platoniciens se retrouvaient, ou le portique, la stoa, l'endroit où les stoïciens se rencontraient. Et pour ironiquement faire savoir que eux aussi, les philosophes cyniques, étaient capables de mettre en place un genre de dispositif, ils se sont mis à l'écart de la cité, dans l'endroit où on enterrait les chiens, donc au cimetière pour chiens, au cynosarge. Souvenez-vous comment on a pu demander à l'archéologie qu'elle nous renseigne et qu'elle nous informe pour voir comment tout ça était articulé. On a pu voir comment, dans le temps, il y avait eu aussi des dispositifs singuliers avec les gnostiques licencieux du 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, et puis aussi les frères et sœurs du libre-esprit. On a passé une dizaine de siècles là sur cette période-là avec des béguinages, ce sont plutôt les béguinages du nord de l'Europe, qui sont les lieux où se jouent les dispositifs hédonistes nouveaux. Et puis on a vu comment le béguinage pouvait fonctionner comme un genre de nouveau jardin épicurien aussi avec Érasme, puisque les fameux banquets épicuriens ont été l'occasion de voir comment on pouvait, quand on est philosophe, faire une proposition architecturale, une proposition aussi de jardin, à tous les sens du terme, c'est-à-dire on avait des jardins potagers, des jardins de simples aussi, et puis des jardins esthétiques dans le dispositif d'Érasme de Rotterdam. C'était l'occasion de voir que la philosophie s'incarnait dans des lieux particuliers, et on illustrait à cette époque-là le versant particulier de l'histoire de la philosophie qui consiste à dire qu'on peut se changer ou changer l'ordre du monde. Vous aurez reconnu dans cette proposition-là, dans cette formule-là, une idée qu'on trouve chez Descartes qui nous dit dans le discours de la méthode qu'il faut se changer ou changer l'ordre du monde. Et c'est une véritable proposition qui nous est faite par Descartes, même si c'est une proposition philosophique qu'on peut améliorer en considérant qu'après tout, en se changeant, peut-être change-t-on quelque peu l'ordre du monde. Et si on change un peu l'ordre du monde, on se change aussi. Il y a des articulations, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça comme type de position, mais ce sont quand même deux grandes façons d'articuler l'histoire de la pensée. Et il y a vraiment des philosophes qui pensent qu'il faut se changer d'abord, et d'autres qui pensent qu'il faut changer l'ordre du monde bien plus tôt. Vous avez vu qu'avec ce 19e siècle que je vous ai proposé, la formule était plutôt « changeons le monde et nous changerons les hommes ». Eh bien, dans la perspective de l'an prochain. Nous verrons comment on peut se changer bien plus tôt. Je vous dire en fin de séance avec qui j'ai l'intention de vous montrer qu'on peut penser comme ça. Ce sont deux articulations qui travaillent le 19e siècle comme elles ont travaillé ces articulations de la totalité des siècles passés. Il y a donc une perspective nouvelle avec le 18e siècle, et le 18e siècle fonctionne avec le 19e, en ce sens, on avait vu que le dispositif libertin est l'un des derniers à être un dispositif antique, parce que le cénacle, appelons ça comme ça, le cénacle du 17e siècle, c'est un peu le jardin épicurien, ça fonctionne un peu comme ça, du moins pour ce qu'on en sait, du jardin épicurien, mais c'est un endroit... la tétrade, par exemple, hein, Gassendi, Naudet et quelques autres, c'est un endroit où on pense discrètement, secrètement, dans des abris, dans des hôtels particuliers, dans des châteaux, dans des maisons de campagne, mais il est encore question d'une micro-communauté et on n'envisage pas la possibilité de changer l'ordre du monde avec une politique qui serait susceptible d'être dite libertine. Il n'y a pas de politique libertine à proprement parler, même si on peut faire la démonstration qu'il y a une politique monarchiste qui défend la monarchie, mais qui considère que, technique du coup d'État par exemple de Naudet, il y a quelques propositions qui sont faites, mais c'est pas sur ce terrain-là que les choses sont vraiment essentielles pour le XVIIe siècle. On considère qu'il faut d'abord changer les élites, d'abord changer la pensée, et fonctionner sur le terrain de l'influence. On influence en étant le précepteur du dauphin, du régent ou du personnage qui est censé mener la politique du pays, mais on n'est pas encore dans des perspectives de politique moderne, je dirais. Et la politique moderne, c'est le dispositif du XVIIIe siècle qui nous le donne, et c'est le dispositif du salon. Il y a des salons mondains, bien sûr, au sens noble du terme, hein, Julie de Lespinasse ou quelques autres, Madame Ludéfant, mais vous avez aussi des salons, et on en a parlé, les salons d'Helvétius, les salons de Dolbach, où cette fois-ci on considère qu'on peut se changer, bien sûr, mais qu'il s'agit bien plutôt de changer l'ordre du monde, et qu'il faut envisager une nouvelle cité, une nouvelle société, et on commence à parler de bonheur public, de bonheur social, et on voit que la Révolution française va donner un sens, une formule à cette perspective-là, et que le 19e siècle tout entier, lui, va être radicalement travaillé par cette perspective de démonisme social, d'hédonisme social ou de démonisme social. Il s'agit bien plutôt de démonisme, c'est-à-dire qu'on pense bien plus en termes de bonheur qu'en termes de plaisir. Vous vous souvenez de la différence entre le démonisme qui suppose qu'on doit viser le bonheur et l'hédonisme qui suppose qu'on doit viser le plaisir. Mais même chose, pas de bonheur sans plaisir, pas de plaisir non plus sans bonheur. Il y a une articulation qui est plus théorique que pratique dans cette aventure et dans ces deux mots. Mais il y a un hédonisme social qui démarre avec le XVIIIe siècle, avec la pensée du XVIIIe siècle, et qui fonctionne bien avec cette partie du XIXe siècle que je vous ai proposée. Ce XIXe siècle... Il nous a permis, avec les choix que j'ai pu faire, j'ai été évidemment contraint de laisser de côté un certain nombre de figures, d'individualités, de pensées. Il a fallu choisir pour rentrer dans le cadre qui est le nôtre. J'aurais bien voulu vous parler un peu plus et un peu mieux des nihilistes russes, vous en parler un tout petit peu ce soir, mais il y avait matière à s'attarder longuement sur cette pensée qu'on connaît peu et mal. On a démarré, souvenez-vous, avec Godwin, Bentham, et on a vu comment la logique libérale fonctionnait, comment la Révolution française a accouché d'une révolution qui est la Révolution libérale et qui n'est pas une révolution politique. On n'a pas de révolution au sens prolétarien du terme. On a vu comment les sans-culottes, comment les enragés, les radicaux avaient perdu cette Révolution française et comment les propriétaires l'avaient gagnée parce que la Révolution française, c'est la fin des féodalités anciennes, bien sûr, mais c'est l'avènement de féodalités bourgeoises sur lesquelles nous sommes encore. Et on a pu voir comment le 19e siècle naissant proposait un libéralisme et un dispositif qui est toujours aussi efficace et qui produit toujours autant d'effets, et qui est le dispositif du panoptique. Le panoptique, souvenez-vous, Jeremy Bentham, qui nous dit, voilà, la main invisible, la théorie classique de l'économie libérale, hein, la main invisible, qui est une option théiste plus que déiste, c'est Dieu qui fait les choses et Dieu fait bien les choses, et laissons-lui faire les choses sur le terrain du marché, laissons le marché libre, et on aura une augmentation de la richesse des nations, et l'augmentation de la richesse des nations produira de fait l'augmentation des individus qui constituent cette nation. une pensée un peu sommaire, que j'ai dite utopique. Il me semble qu'il y a une utopie libérale comme il y a une utopie socialiste, qu'elle est aussi dangereuse que l'utopie socialiste ou communiste, parce qu'elle est perfide et elle nous laisse croire que la liberté du marché pourrait permettre de réguler les sociétés et de produire du lien social et du bien social et du bonheur social. On aurait pu rétorquer à Bentham que si ça avait été aussi clair et aussi juste, on n'avait pas besoin d'un panoptique, et que le panoptique comme maison de redressement, comme occasion de redresser les individus qui résisteraient à cette décision divine ou à cette espèce de théodicée économique, le panoptique fait la démonstration que ça ne marche pas. On considère que la loi va se faire naturellement, mais que si la loi ne se fait pas naturellement et qu'il y a des rétifs, des rebelles, des individus pour lesquels ça ne fonctionne pas bien ou mal, eh bien ceux-là, on les emprisonne et on les éduque, on les redresse. Le panoptique est une métaphore plus qu'une théorie architecturale, même si c'est une théorie architecturale, qui a d'ailleurs servi à beaucoup d'architectes qui ont fabriqué des prisons du XIXe siècle sur ce principe. Mais c'est aussi une métaphore. On peut imaginer que quand Bentham parle du principe panoptique et qu'il nous dit lui-même que ce principe peut être élargi à la manufacture, à l'école, à l'hôpital, à la caserne, à l'armée, eh bien on peut voir à quoi ressemble le monde libéral ou la perspective libérale, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Le libéralisme nous propose ce type de paradis sur terre en nous disant que si on n'est pas content, eh bien on a la possibilité d'envoyer directement au purgatoire, dans la logique du panoptique, les individus qui résisteraient pour les remettre dans le droit chemin. Ça, c'est une première option, et c'est celle de ce premier temps du XIXe siècle que je vous ai proposé. On y a vu fonctionner le principe panoptique. On y a vu avec les phalanstères fourieristes, les communautés d'Owen ou les utopies, comment le principe pouvait fonctionner. J'ai trouvé dans une référence architecturale extrêmement précise une métaphore de ce que pouvait être aussi le principe du phalanstère, le principe de du panoptique, le principe élargi de cette société disciplinaire, en allant voir du côté du Crystal Palace, qui est un bâtiment extrêmement intéressant et qui, à mon avis, est la métaphore de cet eudémonisme social dont je vous ai entretenu pendant toute cette année. Le Crystal Palace, c'est une création d'un personnage singulier, Joseph Paxton, qui est un fils d'ouvrier absolument autodidacte, qui n'a pas de formation d'architecte à proprement parler, qui travaille dans un jardin et qui, travaillant chez le duc de Devonshire, se fait remarquer par le personnage et qui le nomme surintendant. Et d'un seul coup, ce personnage qui fabriquait des serres et qui ne savait faire que ce genre de choses se retrouve à la tête d'un grand projet architectural, puisque on lui propose de construire le bâtiment d'exposition universelle en 1851. C'est assez singulier parce que la conception lui prend une semaine, la réalisation 6 mois, et il nous fait un demi-kilomètre de bâtiment, une espèce d'immense serre, 563 mètres pour être précis, sur 70 000 mètres carrés, avec des assemblages de matériaux préfabriqués. C'est un personnage qui révolutionne l'architecture, alors qu'il n'est pas lui-même du sérail, et qu'on appelle Crystal Palace, c'est-à-dire un palais de verre, un palais de cristal, on appelle sa construction Crystal Palace pour s'en moquer. C'est d'abord une définition ironique, le Crystal Palace. Et le bâtiment fait fureur, parce qu'il est facile à construire. On fait dans un coin des poutrelles, des poteaux, des piliers, des châssis en bois et des carreaux de verre. Et puis on assemble tout ça sur place et ça se fait rapidement. Et surtout, c'est polychrome, c'était peint en rouge, bleu et jaune. Le bâtiment a été détruit, pour l'histoire et pour l'anecdote, avant qu'on en arrive à sa signification, a été détruit en 1936 par un immense incendie, puisqu'il en est resté pendant longtemps, eh bien, a été détruit en 44 volontairement par les Anglais pour éviter que ça serve de point de ralliement à la Luftwaffe pour les bombardements allemands sur Londres. Cet endroit me paraît intéressant parce que il a existé comme une réalité, donc une réalité architecturale, mais il a aussi servi de métaphore politique et on l'a retrouvé à plusieurs reprises sous la plume d'un certain nombre d'auteurs, notamment les auteurs russes, les auteurs du nihilisme russe, de ce qu'on appelle le nihilisme russe, mais aussi ceux qui ont tourné autour, Dostoïevski par exemple ou Turgenev. Que dit ce bâtiment ? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme leçon de ce fameux Crystal Palace ? On peut imaginer que la philosophie des Lumières trouve son bâtiment manifeste dans le Crystal Palace. C'est-à-dire c'est un bâtiment qui abolit la différence entre le dehors et le dedans, La matière est transparence. Elle est transparente et elle est transparence, la matière de ce bâtiment-là. On dit que les points de fuite n'existaient plus dans le bâtiment et qu'on était perdu, qu'on ne savait pas mesurer sa vastitude. Et la vastitude, c'est un mot que j'emprunte à Saint-Evremont, la vastitude, elle est susceptible de produire des effets de sublime. C'est-à-dire, on est tout petit personnage dans cette espèce de grande aventure architecturale. Le bâtiment est l'occasion de dire, le héros dans cette aventure, c'est la lumière. Et on pourrait imaginer que la philosophie des Lumières, et pas seulement pour jouer avec le mot, mais la philosophie des Lumières, a son bâtiment manifeste dans cette aventure, parce qu'il s'agit de fabriquer une société dans laquelle tout est transparence. On a une société de verre dans laquelle tout le monde voit tout le monde. Et vous voyez comment le principe panoptique se trouve réalisé dans ce bâtiment, bien sûr, mais qui peut être extrapolé à la dimension d'une société, voire d'une civilisation ou d'une culture. D'aucuns, les bolcheviks par exemple, ont cru qu'on pouvait faire de la planète entière un genre de Crystal Palace. Et vous avez vu comment ça a fonctionné, quel type d'effet ça a pu produire. La métaphore, on la voit fonctionner chez Tchernychevski, qui est l'un des grands nihilistes russes, avec Dobroliubov et Pissarev, qui sont des auteurs qu'on a du mal à lire en France et en français parce qu'ils sont peu ou pas traduits ou mal traduits. Ils l'ont été un temps, mais par les éditions de Moscou, et qui avaient évidemment des intérêts à publier ces textes-là comme ils les ont publiés, parce que ces textes-là étaient des textes qu'on pouvait tirer du côté du bolchevisme, puisque Lénine lui-même s'en est quelquefois servi. Et on a gommé tout ce qui était gênant et problématique, c'est-à-dire tout ce qui ne préparait pas à proprement parler au bolchevisme. Par exemple, le fourriérisme a joué un rôle important dans les communautés russes de cette époque-là, dans lesquelles on a souhaité réaliser la révolution sexuelle de Fourier avec un certain nombre de réactions, évidemment, du gouvernement tsariste et de la police politique à cette époque-là. Fourier a donc produit des effets, et la métaphore du Crystal Palace a aussi produit des effets. Tchernychevski donc écrit un livre qui s'appelle « Que faire ?» en 1863, il est en forteresse pour des raisons politiques. Hein. Le texte est sous-titré d'ailleurs « Récit sur les hommes nouveaux ». Ce qui est intéressant, on est dans une logique très 19e siècle. Hein. Il s'agit de fabriquer un homme nouveau, une société nouvelle, une cité radieuse, avec des hommes nouveaux, et c'est la proposition qu'on se fait à l'époque. Le livre répond à un ouvrage de Turgenev qui s'appelle « Pères et fils » qui date de l'année d'avant, 1862, et qui met en scène un personnage qui s'appelle Bazarov et qui est le prototype du nihiliste. Alors le nihiliste, ça n'est pas forcément ce qu'on en dit habituellement, ce que la critique présente habituellement comme tel. C'est un courant plutôt positif, on peut même le dire au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que le positivisme d'Auguste Comte a marqué les nihilistes, et que le positivisme fait la critique de la religion, bien sûr, mais pour ce qu'elle contient de superstition, conserve dans la religion ce qu'elle a prétendument d'intéressant, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer du lien social, ou la possibilité de réaliser de la liaison sociale, et le positivisme d'Auguste Comte est devenu assez rapidement une religion. C'était un peu un risque que le positivisme fonctionne comme ça. Ça a été du moins le positivisme français, mais il a produit, ce positivisme, des effets en Russie, et notamment chez le personnage Bazarov, qui sert de figure emblématique à ce roman, et qui lui est un botaniste, médecin positiviste, scientiste radical, qui en tant que scientiste est parfois même un petit peu ridicule, en considérant que tout doit pouvoir se démontrer, tout est dans une perspective physique, mécaniste, mathématiques, et que la vérité, elle est sur ce terrain-là. Donc il déteste l'art, il déteste la religion, il déteste la famille, il critique l'amour, Bazarov. Et c'est un personnage qui détruit beaucoup, même s'il construit aussi. C'est-à-dire, le nihiliste n'est pas qu'un destructeur, c'est aussi un constructeur, c'est aussi, et souvenez-vous, on en a parlé avec Bakounine, c'est aussi un personnage qui, ce sont des personnages, les nihilistes, qui sont des lecteurs de Hegel, et qui retiennent de Hegel cette idée que dans la dialectique, il y a toujours un moment de négativité, un moment de destruction, qui est la condition nécessaire et suffisante à la construction ou à la reconstruction. Il faut détruire pour pouvoir reconstruire. Donc c'est un travail que les nihilistes proposent comme un travail préparatoire pour une autre société, bien sûr. Ce personnage de Bazarov est assez désespéré. Sa vie d'ailleurs, sa vie tout entière va dans la direction de la mort. Et c'est en réponse à ce texte de Turgenev que Tchernychevski écrit son livre Que faire. Il nous dit, si vraiment le nihilisme dit la vérité, alors c'est désespérant, c'est le triomphe de la pulsion de mort. Et avec le triomphe de la pulsion de mort, on ne va pas bien loin. Et lui répond à cette question, que faire? Et il répond, la révolution. Faisons une révolution d'un genre fourriériste. Et c'est dans cet ouvrage-là, passage d'ailleurs, la quatrième partie, qui est le quatrième rêve de Vera Pavlovna, que Tchernychevski met en scène une femme médecin, émancipée, donc, hein, qui donne des cours de couture à des ouvrières pour les émanciper. Il considère que le travail doit permettre d'émanciper ces femmes qui sont des femmes aliénées sous régime tsariste et dans le régime tsariste. Et cette femme est aussi médecin comme l'était Bazarov, mais elle est engagée sur le terrain de la politique. Elle considère que le nihilisme n'est pas la vérité, mais que la révolution fourriériste est plutôt la vérité. Il s'agit de travailler à l'avènement d'hommes nouveaux. Hein, l'expression, je vous le disais, dans le sous-titre de Tchernychevski, et c'est une expression qui va produire des effets dans tout le XIXe siècle, puis ensuite dans le début du XXe siècle avec la révolution bolchevique. Il s'agit de fabriquer un nouvel homme, un homme nouveau, l'homme total, l'homme complet, qui était proposé déjà par Marx, qui pensait qu'on pourrait un jour réaliser un homme accompli, qui serait capable, et on en avait parlé, hein, d'être aussi bien philosophe que pêcheur, qui pourrait faire son jardin et composer de la musique, qui pourrait en même temps faire de la politique et puis être doué en horticulture, et qui serait l'individu qui réconcilierait toutes les possibilités en lui-même, parce que la société le lui rendrait possible cette émancipation. À l'époque, on pense que le bonheur de l'individu, ça passe par le bonheur de la société, que c'est la société qui doit réaliser le bonheur de l'individu. Ça, c'est un grand moment de ce 19e siècle. On verra l'année prochaine que d'autres pensent que ça peut se faire malgré ça, voire contre ça, c'est-à-dire qu'on peut faire le bonheur des individus indépendamment du bonheur de la société, et que c'est pas la société qui, elle seule, doit pouvoir fabriquer le bonheur des individus, mais qu'on peut, quelle que soit la société, fabriquer son bonheur. Cette cité radieuse que nous propose Tchernychevski, il se sert de la métaphore du Crystal Palace pour nous dire à quoi elle pourrait bien ressembler. Et elle ressemble aux descriptions qu'on retrouve sous la plume des utopistes, Voyage en Icarie par exemple de Cabet, où il y a une espèce de joie forcée et permanente, où tout le monde est dans la bonne humeur, dans le riz, où on est très heureux de vivre ensemble et de travailler. Quand on fait la moisson, les épis sont magnifiques, évidemment, puisque les épis ont fait la révolution aussi. Vous avez des produits magnifiques, on travaille sous une cloche de verre, et il y a un vélum, un immense vélum, qui accompagne les travailleurs en fonction de la moisson avance et on couvre les travailleurs pour éviter qu'ils prennent des coups de soleil. Donc c'est une utopie magnifique, mais qui nous dit voilà qu'on peut bien manger beaucoup, que les repas sont abondants et gratuits, les cantines sont vastes, et on nous propose une cité radieuse et le rêve utopique réalisable, donc réalisé. Vous voyez comment le rêve révolutionnaire a vu le jour dans ces périodes-là, dans ces moments-là. On a des propositions socialistes, on a des propositions communistes, avec Owen, très vite et très tôt, vous avez vu à quoi elle ressemblait. Et là, on est en train de penser plutôt sur le mode totalisant, voire totalitaire, un bonheur possible, et ça prendra la forme du communisme tel que Cabet le décrira dans son voyage en Icarie. Voyez comment Turgenev écrit un texte assez désespéré, mettant en scène du moins un Bazarov assez désespéré, nihiliste, comment Tchernychevski lui répond en lui disant que le nihilisme n'a pas de sens et que la vérité est bien plutôt dans la construction d'une révolution de type fourriériste. Et Dostoïevski répond à ces textes-là l'année suivante, 1864, dans un texte qui s'appelle « Mémoire écrite dans un souterrain », dans lequel il moque les idéalistes, les rêveurs et les utopistes. Dostoïevski lui-même a été emballé par les propositions fourriéristes, par les propositions socialistes révolutionnaires. Il s'est même retrouvé devant un peloton d'exécution et on a simulé une exécution à laquelle il a échappé. Donc il connaît l'aventure révolutionnaire, Dostoïevski, mais en même temps, ce petit texte qui passera plus ou moins inaperçu en son temps est un texte programmatique, parce qu'il nous dit que dans une société de verre comme celle-ci, et lui aussi utilise la métaphore du Crystal Palace, dans une société de verre comme celle-ci, on ne peut y faire vivre que des fourmis, mais pas des hommes. Il n'est pas question, nous dit Dostoïevski, que ça puisse être l'horizon indépassable du bonheur humain, la construction de cette utopie de verre dans laquelle la transparence serait totale et dans laquelle on aurait un principe panoptique, pour le dire dans l'expression de Bentham, qui serait absolument et totalement incarné. Donc méfiance, nous dit Dostoïevski, qu'on n'a pas beaucoup lu, pas beaucoup médité au XXe siècle, et il faut attendre des gens comme Albert Camus, qui sont les antitotalitaires, qui est l'antitotalitaire que vous savez, pour qu'enfin on revienne à ce genre de texte et qu'on puisse faire une lecture de Dostoïevski qu'on opposera au délire d'un Tchernychevski. Un Tchernychevski qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a été taillé pour rentrer dans la carte postale officielle de l'idéologie marxiste-léniniste, mais le personnage qui nous est présenté n'est évidemment pas, en Union soviétique, avec les traductions soviétiques, n'est évidemment pas le personnage réel dont la dimension est nettement supérieure à ce que le bolchevisme en aura fait. Il y a donc cette option communautaire, l'option du panoptique, et puis il y a une autre option qui est l'option de ce que les anarchistes vont appeler un petit peu plus tard l'option du milieu libre. Et ce milieu libre, il est tout à fait singulier parce qu'il me semble que c'est une grande perspective pour notre 21e siècle. On voit bien comment l'idéal communautaire du Crystal Palace a été effrayant, combien il a généré de millions de morts. Et on voit mal comment les pensées alternatives à ce modèle-là, mais à gauche, les pensées fourriéristes par exemple, ont pu être occultées à ce point. Donc on va refaire une petite considération, de redonner quelques considérations sur ce qu'ont été les communautés utopistes, fourriéristes bien sûr, mais aussi owenienne, celle de Cabet aussi, pour voir comment il y a eu des succès, puis des échecs, comment ça passe habituellement comme un lieu d'échec, les utopies communautaires. Et moi, je vais vous proposer une autre lecture en vous disant que certes, il y a probablement eu des échecs, mais il y a aussi des succès, des réussites attenantes à ces milieux libres. Il s'agit donc de faire la révolution non pas sur le mode marxiste, à savoir appropriation collective des moyens de production, ou sur le mode insurrectionnel, de type anarchiste et Bakounine, mais de considérer que, en attendant, dans le monde comme il est, ici et maintenant, c'est-à-dire dans le mode de production capitaliste et libéral, on doit pouvoir fabriquer des micro-sociétés alternatives. Et ces micro-sociétés alternatives, elles sont l'occasion de micro-résistance. Et l'optimisme aidant, optimisme d'Owen, optimisme de Fourier, eh bien on peut imaginer que les gens verront ces communautés-là, verront combien elles sont magnifiques, et elles se reproduiront, et il y aura une révolution par capillarité. Fourier considérait que les phalanstères étaient donc ces dispositifs de l'eudémonisme social. Il considérait qu'un phalanstère, c'était 1800 personnes environ. Tchernychevski, quand il pense à sa ville sous dôme, considère qu'on doit pouvoir y loger 2000 personnes. On est donc dans une jauge à peu près semblable. Et on voit comment les milieux libres ont produit un certain nombre d'effets et comment ça a pu laisser des traces longtemps dans le 19e siècle et comment ça pourrait aujourd'hui, à nouveau, après une espèce de période d'éclipse au XXe siècle, produire des effets. Comment nous pourrions, et on verra ça quand on abordera Deleuze et Guattari, les microfascismes, les micro-résistances, la possibilité aujourd'hui de restaurer des nouvelles occasions de micro-résistance pour des micro-politiques, car il n'y a pas que des macro-politiques, disons-le pour dans ce terme-là, il y a aussi des occasions de micro-politiques, donc micro-sociétés, communautés qu'on peut fabriquer dans un milieu globalement hostile. Owen a fait ça, New Lanark, souvenez-vous. Il y a eu une autre communauté qui était celle de Nouvelle Harmonie en Indiana. Il a refait une communauté à Hans, près de Glasgow. On a eu aussi la Nouvelle Icarie avec Cabet, considérant aussi dans le Texas à fabriquer des communautés qui ont toutes échoué. Alors, on peut constater qu'elles ont échoué parce que très vite, ça s'est mal passé. On a découvert qu'il y avait des envieux, des jaloux, des feignants, des gens qui, dans des communautés, travaillaient, d'autres qui ne travaillaient pas. Certains qui pensaient que si on ne les invitait pas à travailler, ben, il n'y avait pas de raison d'y aller, pendant que d'autres y allaient. On a commencé à trouver que, ben, après tout, les communautés pouvaient se faire sur tous les terrains, c'est-à-dire on pouvait mettre en communauté des propriétés, des lopins de terre, mais qu'on pouvait aussi mettre en propriété commune des maisons, ou éventuellement des histoires ou des aventures amoureuses. Et puis on s'est aperçu que c'était pas aussi simple que ça, qu'on décrète pas l'amour libre, que ça se fait pas par décret. Les Espagnols et les, de la révolution anarchiste espagnole l'ont découvert à leur corps défendant dans les années 30, enfin 36, quand ils ont déclaré l'amour libre. Ça se déclare pas comme ça, je témoigne. Et on a vu que les communautés se sont défaites, délitées. Donc tous les récits de ces échecs micro-communautaires peuvent faire sourire, et on peut dire, finalement, toutes ces micro-communautés ont échoué parce qu'elles échouent de fait, naturellement, et que l'échec est inscrit dans leur logique. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai. Je pense qu'il faut considérer que ça a produit des effets, et on peut même regarder comment ces communautés qui, la plupart du temps, très peu ont été sexuelles, c'est-à-dire très peu ont considéré que la partie de liberté amoureuse ou d'amour libre était essentielle. Donc on a gardé souvent les logiques familiales, mais il y a eu des expériences économiques, on pourrait dire, au sens étymologique, c'est-à-dire des expériences de la maison, de l'agencement de l'ordre de la maison, de l'ordre intérieur, du fonctionnement, du budget. Et il y a eu des expériences qui sont susceptibles de produire des effets encore aujourd'hui, et qui ont produit des effets. Alors lesquels? Ces communautés parfois ont dérivé et ont produit des coopératives de production, des magasins associatifs. Il y a même eu à un moment, j'ai repéré une boulangerie véridique, c'était son titre, qui a fait faillite en 3 mois, des centres d'apprentissage autogérés, des assurances maladies corporatistes, des caisses de retraite professionnelles, des sociétés de secours mutuels et des écoles aux pédagogies alternatives. Ce qui, somme toute, fait un bilan extrêmement intéressant, pas aussi déplorable que ce qu'on veut bien dire, c'est-à-dire que les milieux libres, les communautés utopistes, n'ont pas généré que de la négativité, que de l'échec, ou que matière à rire ou à sourire, ce qui fait qu'il y a eu des effets induits par les philosophes dont je vous ai parlé cette année, par l'utopie libérale de Godwin et de Bentham, mais aussi par le socialisme libéral de Stuart Mill, et puis évidemment Owen, Fourier, Bakounine pour les derniers. Et je vais vous lister tout ça, et vous allez voir que c'est quand même un capital politique majeur, essentiel, et qu'il faut veiller à ne pas détruire ces acquis-là, qui sont des acquis politiques conquis de haute lutte. Par exemple, le suffrage universel. Ça paraît aujourd'hui une espèce d'évidence, mais ça a été un véritable combat qui a fait que, par exemple, Auguste Blanqui a passé plus d'une trentaine d'années en prison, simplement pour réaliser cette idée-là, pour rendre possible le suffrage universel. C'est-à-dire, un homme, une voix. Un homme, une femme. Un homme, une femme, une voix. Pour aller au-delà du suffrage censitaire de la Révolution française, qui nous disait qu'après tout, un propriétaire égale une voix, et puis un ouvrier égale zéro voix. Pourquoi est-ce qu'un prolétaire devrait décider de l'avenir de la nation puisqu'il ne produit rien dans cette nation? En revanche, le propriétaire, lui, puisqu'il est intéressé au devenir de la nation, il doit pouvoir s'exprimer. La Révolution française est le lieu de réflexion sur la question du sens censitaire, sur la question censitaire. Et il y a un certain nombre de gens qu'on présente comme des révolutionnaires qui étaient partisans d'un suffrage censitaire en relation avec la fortune, la propriété. Il a fallu que des socialistes, au sens noble du terme, puissent dire que le suffrage universel était une grande et belle idée pour pouvoir combattre et avancer cette proposition politique, cette proposition de constitution d'une souveraineté politique, qui est une belle occasion. On a également pu mettre au crédit de toutes ces micro-communautés et micro-sociétés la réduction du temps de travail, cette idée que il faudrait travailler plus pour gagner. Vous êtes au courant un peu de ça, hein? Eh bien, c'est une vieille idée libérale. Et ce sont les socialistes qui considèrent que, au sens noble du terme, socialiste, non, c'est pas forcément une bonne chose que de travailler plus. On peut travailler mieux, mais pas forcément plus. Et que le fin mot d'une existence, ça n'est pas le temps de travail, ça n'est pas le travail qu'on a ou qu'on fait. Il y a eu des avancées, évidemment, sur la gratuité de la santé, sur les retraites. Ce sont des questions qui ont été posées par Owen, et qui a considéré, Owen, que quelqu'un qui avait beaucoup travaillé, qui avait beaucoup donné, eh bien, il méritait de voir une retraite prise en charge par la communauté ou par la société. Ça n'était pas évident pour les libéraux, qui trouvaient ça inique, injuste, coûteux et insupportable. Les socialistes ont défendu ces idées-là, ça leur a coûté cher, les communistes aussi. C'est devenu une évidence, et il se fait que ça peut cesser d'être une évidence. Ça n'est pas un acquis définitif, il faut combattre pour que propositions qui nous ont été faites avec ces grandes figures politiques du 19e soient des propositions qui soient toujours actives et qui soient toujours activées. Les solidarités étatiques, cette idée que quand quelque chose arrive à quelqu'un, la communauté se reconnaît des droits à l'endroit de celui qui est victime d'un pépin ou d'un malheur. Éducation nationale gratuite, ça aussi, ça fait partie des acquis des micro-communautés, des micro-combats, des micro-résistances de cette époque-là. L'école était une affaire de riches, de bourgeois, de propriétaires. C'était une affaire de prêtres qui transmettaient une idéologie, l'idéologie d'État. Eh bien, avec ces communautés socialistes, communistes, on considère que on doit pouvoir éduquer tout le monde, tous les enfants, tous les petits garçons, toutes les petites filles, quels que soient leurs parents, les fils et filles d'ouvriers, les enfants modestes devaient pouvoir accéder à une instruction. Et que cette instruction, elle allait de pair avec le suffrage universel. C'était lié dans l'esprit des socialistes et dans l'esprit d'un Blanqui, bien sûr. Il n'est pas question de demander à chacun ce qu'il pense s'il n'est pas informé, s'il n'a pas les moyens intellectuels de pouvoir juger, de pouvoir voter intelligemment. Donc le suffrage universel a son obligation éthique qui est l'instruction, qui est l'éducation. Et si l'instruction est gratuite, laïque, nationale et obligatoire, eh bien on fait des progrès. Humanisation des conditions de travail, bien sûr, puisque longtemps le christianisme a laissé croire que la condition du travailleur, elle était produite par des effets théologiques et métaphysiques. Souvenez-vous la pensée libérale qui nous dit en gros que si un ouvrier pauvre et malheureux, c'est parce que finalement Dieu l'aura décidé, que ça obéit à un plan de Dieu, cette aventure. On dit même pas du tout. Les gens ne sont pas là dans une expiation. C'est pas parce qu'il y a eu un jour un péché originel et que le travail est devenu la damnation, l'effet de la damnation divine, que pour autant il faut assumer cette logique, la défendre et en faire la logique triomphante en disant travaillez, vous êtes en train d'expier le péché originel. À gauche, les socialistes, les communistes ont considéré qu'il n'y avait pas de relation entre le travail, le monde du travail et le monde métaphysique, théologique, chrétien. On a travaillé aussi, évidemment, chez tous ces individus-là, à l'égalité homme-femme, en considérant qu'il n'y avait pas de raison d'imaginer que parce que l'homme était homme, il était de fait supérieur et qu'il avait le droit de vote, par exemple, qu'il était chargé de famille, qu'il avait le pouvoir dans la famille, que la femme lui était soumise et que les enfants étaient soumis à la famille qui était dirigée par l'homme. Donc l'explosion de la famille traditionnelle avec un homme de droit divin qui disposait du pouvoir de droit divin, tout ça, ce sont des idées qui explosent, même si elles sont sapées doucement, tranquillement, longtemps. Ce sont ces gens-là qui mettent en cause la famille traditionnelle et surtout le patriarcat, le pouvoir des hommes. On a travaillé également avec ces hommes-là à la suppression du travail des enfants. On a considéré dans l'esprit d'un Victor Hugo qu'il valait mieux des enfants à l'école plutôt que dans les mines, où on pourrait les instruire, leur apprendre à lire, à compter, à penser, à réfléchir et à pouvoir se déterminer ensuite politiquement. Vous voyez que tout ça fait sens pour un projet de société. L'émancipation des colonies, ce sont aussi des idées modernes. Quand je dis modernes, c'est-à-dire qui naissent à cette période issue de la Révolution française. On nous dit que s'il y a une égalité, une fraternité, eh bien, elle doit être générale entre les sexes, entre les religions, entre les cultures, entre les races, entre les couleurs de peau. Toutes ces idées-là sont des idées qui ont été défendues par les penseurs de gauche, les socialistes, les communistes, les anarchistes, les libéraux dans la partie la plus intéressante du libéralisme, c'est-à-dire l'augmentation et l'élargissement des libertés en réaction aux monarchies qui à l'époque confisquaient les pouvoirs. Il y a donc un grand moment libéral dans l'histoire de la pensée et il faut rendre hommage aux libéraux qui ont été Helvétius et qui ont été Dolbach, qui étaient des libéraux, des économistes libéraux en même temps que des libéraux sur le terrain des mœurs. Et ce sont tous ces gens-là qui ont permis les progrès sociaux et politiques du 19e siècle et des progrès sur lesquels nous sommes censés pouvoir compter encore aujourd'hui. Tout ça, évidemment, a eu un coût considérable, puisque il y a eu à l'époque des massacres. La Commune, par exemple, mais même des révolutions plus douces, disons-le comme ça, 1830, 1848, ont été l'occasion de barricades, ont été l'occasion d'assassinats, de fusillades, de tirs de l'armée sur le peuple dans la rue, sur des enfants, sur des femmes. Il y a eu, avec la Commune de Paris, les massacres que vous savez, les Versaillais qui ont tiré sur les femmes, sur les enfants, puis qui ont déporté Louise Michel, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, avec tous les communards à l'époque. Les emprisonnements, je vous parlais des décennies d'emprisonnement de Blanqui, pour des idées somme toute entrées aujourd'hui dans la grande perspective de la démocratie française, suffrage universel par exemple. Il y a eu des fusillades sur tous les territoires, sur tous les lieux insurrectionnels européens, et il y en a eu un certain nombre. Il y a eu des persécutions, des interdictions, enfin bon, l'histoire est connue, des répressions des mouvements sociaux au XIXe siècle et surtout de la répression des mouvements socialistes, communistes ou libéraux, quand je disais tout à l'heure que le libéralisme était ce libéralisme-là, c'est-à-dire un libéralisme économique, certes, mais qui est doublé d'un libéralisme idéologique, augmentation de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, de la liberté de pensée, de la liberté de culte, qui sont des libertés qui ont été d'abord saisies par des Benjamin Constant ou par d'autres individus, y compris Adam Smith, Ricardo et quelques autres qui sont les pères fondateurs. Il y a donc eu des dispositifs hédonistes pour incarner cet eudémonisme social. Même si les Français prennent du retard à cause des guerres napoléoniennes, parce que pendant qu'on prépare des guerres, pendant qu'on est sur les territoires de guerre, eh bien, on saigne la société, on saigne la nation, on saigne non pas la République, puisqu'il n'en était plus question, mais l'Empire. Et on voit comment la France a pu prendre un retard à cette période-là de son histoire, pendant que l'Angleterre, par exemple, caracolait en tête et était nettement plus progressiste, disons-le comme ça, dans un terme un peu problématique, mais que l'Empire français, que l'Empire napoléonien. Donc ce 19e siècle, on va le laisser derrière nous, mais on le retrouvera évidemment régulièrement. C'était donc le siècle de l'eudémonisme social, c'était le siècle des palais de verre, du Crystal Palace, c'était le siècle du phalanstère, c'était le siècle des communautés qui nous disaient que les communautés devaient pouvoir réaliser le bonheur des individus et que l'idée qu'un individu puisse chercher son bonheur individuel, ça n'avait pas grand sens. On était dans une logique d'égoïsme, d'égotisme ou d'individualisme. On abordera donc l'an prochain, un autre 19e siècle, mais qui est contemporain. Vous verrez qu'on n'est pas dans une période chronologique qui nous permettrait de dire qu'il y a une première moitié qui irait jusqu'à telle date, puis une autre qui, de telle date à telle date, nous montrerait un autre 19e siècle, une fracture. Il n'y a pas de ligne de fracture ou de point de fracture dans cette lecture que je vais vous proposer, mais il y a, en même temps, un moment important dans l'histoire occidentale qui est la naissance de l'individualisme moderne. C'est-à-dire que l'individu que nous sommes tous les uns les autres, ici, et c'est une individualité qui s'est fabriquée, qui s'est construite, et ça n'est pas une évidence. Si vous voyagez un peu, de temps en temps, il y a plein d'endroits sur la planète, des continents entiers, par exemple le continent asiatique ou le continent africain, qui sont des endroits où le concept d'individu n'est pas très compréhensible, mais plutôt dans des perspectives de tribu, dans des perspectives de fratrie, dans des perspectives panthéistes, où l'individu n'est pas séparé de la nature, où l'individu c'est de la nature, c'est un morceau, c'est un fragment de nature. Pour fabriquer l'individu contemporain, le nôtre, il y aura une révolution, et elle est contemporaine de la révolution industrielle. Et c'est l'histoire que je vous proposerai l'an prochain, la naissance de l'individu moderne. Alors on verra comment le démonisme social fonctionne de conserve avec ce que j'appelais les radicalités existentielles. Ce sont des radicalités existentielles parce que les individus dont je vais vous parler sont des individus qui, pour reprendre l'expression de Marx, ont été radicaux parce qu'ils prenaient les choses à la racine. Et on verra quel type de racine. Et comment ils s'y sont pris. Et existentiel parce qu'ils mettent en jeu leur existence et l'existence. Alors, en quelques lignes, pour vous donner un avant-goût de cet autre 19e siècle, il y sera moins question de politique, au sens large du terme, hein, et beaucoup plus question d'éthique, même si c'est toujours un peu spécieux de considérer que les deux concepts pourraient fonctionner de manière aussi clairement séparée. Et bien évident que la politique, c'est de l'éthique, et l'éthique, c'est de la politique. Mais vous voyez comment ce sont deux façons différentes d'aborder une même réalité. Donc on abordera plutôt des questions d'éthique, c'est-à-dire des questions de vie philosophique. On retrouvera les projets antiques. Non pas que des gens comme Fourier n'aient pas eu le projet d'une vie philosophique, ou Bakounine, et vous avez vu comment la vie de ceux-là était aussi des vies philosophiques, pas seulement des vies de philosophes, mais des vies philosophiques, c'est-à-dire des vies dans lesquelles on essaie de vivre la pensée qu'on avance, et des lieux d'expérimentation pour la théorie qu'on écrit, qu'on propose dans des ouvrages. Donc le souci de la vie philosophique, vous le savez, c'est pratiquement ce qui distingue la totalité de la philosophie antique, Il n'est pas question de philosopher pour faire de la philosophie, il est question de philosopher pour bien vivre, pour mieux vivre, pour donner un sens à son existence. On va retrouver dans ce 19e siècle-là, eh bien, des individus qui, eux, vont nous proposer des existences incandescentes, pas comme des modèles, mais qui vont vivre, eux, des existences incandescentes. Il est question, cette fois-ci, de retrouver la position socratique contre Platon. Socrate contre Platon. Vous savez que j'ai eu l'occasion de vous dire que le Socrate que nous connaissons est souvent un personnage qui était fabriqué par la figure d'un Platon qui avait besoin de ce Socrate-là et qui a platonisé Socrate, qui historiquement n'était sûrement pas ce que Platon en a fait. Et il me semble qu'historiquement, Socrate était bien plus proche de Diogène et d'Aristide de Cyrène, des individus dont on a parlé aussi jadis, au début de mon quinquennat, donc, et quand on a vu que ces individus-là nous proposaient des radicalités d'existence, des radicalités de comportement, des radicalités de vie quotidienne. Il s'agissait de vivre autrement, de vivre différemment, de considérer que la philosophie n'était pas une affaire d'écriture, de livre, mais c'était une affaire de vie. Et on sait d'ailleurs que Socrate n'a jamais rien écrit et que les traces qui nous restent sont des traces qui sont données par Platon ou par Xénophon ou par Aristophane, qui s'en moque beaucoup. Mais voilà un individu qui nous montre, Socrate, que la philosophie, c'est affaire existentielle de sculpture de soi, de construction de soi, d'adéquation entre soi et soi. Il s'agit de coller à soi-même, de se construire une existence dans laquelle on va réaliser du bonheur, de la joie, de la paix, de la sérénité ou de la sagesse. C'est la proposition que nous fait Socrate, mais c'est aussi la proposition que nous font tous les philosophes antiques, ou presque, parce qu'on pourrait de temps en temps se demander comment ça marche, comment ça fonctionne chez Aristote, mais il y a chez Aristote, indépendamment des théories scientifiques ou des écrits sur la physique ou sur la logique, des propositions dans l'éthique à Nicomaque et qui sont des propositions de vie philosophique. Parce que à l'époque, ça n'a pas de sens de faire de la philosophie indépendamment de la vie qui va avec. On va retrouver donc, avec les philosophes dont je vais vous parler, ce vieux souci antique, existentiel, d'une construction de son existence, et on recherchera avec eux quelle est la meilleure forme d'existence possible. Le souverain bien, la question du souverain bien que nous avons vaguement laissé tomber, encore que on peut imaginer que le souverain bien chez les philosophes dont nous avons parlé l'an dernier était des questions politiques, et que le souverain bien c'était la bonne cité, la belle cité, la cité harmonieuse, le fameux Crystal Palace. Cette fois-ci, on va voir comment on entre dans l'intimité des individus qui, eux, essaient de se fabriquer une existence dans le monde comme il est. Il y aura des propositions politiques, on le verra, chez Thoreau, chez Emerson, chez quelques autres, mais très peu. C'est pas le centre, c'est pas l'épicentre de leur pensée. On n'abordera pas franchement Nietzsche l'an prochain, mais vous verrez qu'il est Il sera présent tout le temps, il a dit du bien, et quel bien, et Nietzsche n'en disait pas de grand monde, mais d'Emerson, on va parler de Thoreau, Guyot a été un personnage extrêmement important dans son existence, le fameux livre « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction » a été annoté par Nietzsche, a joué un grand rôle dans l'élaboration de sa propre pensée, Lou Salomé, dont il a été amoureux, Paul Ray, qui a été son ami aussi, avec lequel ils ont eu le désir d'une espèce de fonctionnement intellectuel commun. Et on verra comment tout ça met en scène un inconscient moderne, un corps moderne, quelque chose qui va générer un petit peu plus tard la psychanalyse. On verra même qu'avec Lou Salomé, qui sera elle-même psychanalyste et qui, sur le temps, aura pu connaître Nietzsche, mais aussi Rilke et Freud, et être une intime de Freud, on verra comment on entre cette fois-ci dans le freudisme. On parlera de la psychanalyse, bien sûr, mais surtout de le freudisme, que je distinguerai de la psychanalyse, pour montrer que le freudisme, c'est aussi une conception philosophique de l'être, de la vie et du monde, et qu'il n'y a pas que la thérapie psychanalytique dans la pensée de Freud. Ça, on verra comment ça s'articule avec Nietzsche en retrait, Lou Salomé un petit peu en avant. Ce sont des figures qui nous permettront de penser cette modernité-là. On verra donc que le premier temps de ce 19e siècle, c'est-à-dire le démonisme social, a proposé des constructions solidaires. Et bien là, je vous proposerai les constructions solitaires d'individus qui voudront non pas ignorer le monde, mais qui considéreront que dans ce monde-ci, on peut se fabriquer une existence sur mesure et qu'on peut retrouver la grande tradition du philosophe, du maître de vérité, du maître de sagesse. Thoreau d'ailleurs écrivait qu'il y avait beaucoup de professeurs de philosophie, mais très peu de philosophes. Et il a raison, le 19e siècle est un moment où la philosophie passe aux mains des professeurs. Ça aussi c'est une histoire, mais peut-être que ce sera la conclusion ultime de tous les séminaires que nous aurons consacrés à cette contre-histoire, comment le 19e siècle est devenu un siècle de philosophie universitaire et comment cette philosophie existentielle a laissé le pas à ses professeurs grands, hein, qui ont été Hegel par exemple ou d'autres, ou Schelling ou ceux de l'idéalisme allemand, mais c'était une façon de faire de la philosophie, ou Cousin qui était quand même beaucoup plus modeste lui en France, mais une façon de faire de la philosophie qui a produit des effets encore aujourd'hui et qui est la façon officielle, je dirais, de faire de la philosophie aujourd'hui, c'est-à-dire la façon de la pratiquer à l'université en considérant qu'on peut dissocier la philosophie et la vie philosophique. Ces philosophes dont nous parlerons l'an prochain sont des individus qui ne conçoivent pas la philosophie sans la vie qui va avec et sans la vie qui prouve la philosophie qu'on avance et qu'on met en scène. Donc il ne s'agit pas de philosopher contre le monde ni loin du monde, mais malgré le monde, c'est-à-dire dans le monde, comme il est, vous y êtes, vous faites votre travail existentiel, votre recherche, et le propos de Socrate, connais-toi toi-même, cette invite socratique, qui était celle de l'oracle de Delphes, comme vous le savez, cette invite, eh bien, on la retrouvera dans cette partie du 19e siècle, apprendre à se connaître, savoir qui on est, comment ça marche, un individu, et comment ça fonctionne. On va donc fabriquer l'individu moderne, on va voir comment il se fabrique dans ce deuxième moment du 19e siècle. On va y retrouver donc des grandes individualités qui sont contemporaines du dandysme de Baudelaire. On a un peu parlé du dandysme, un peu notamment au moment où on a parlé de la vie de Stuart Mill, mais on parlera un petit peu plus de textes, de très beaux textes de Baudelaire. On n'en parlera pas forcément directement, mais on verra comment le dandysme s'incarne ailleurs que chez les dandys habituels et qu'il y a du dandysme chez les philosophes dont je vais vous parler parce qu'ils résistent à la vulgarité, à la médiocrité, à la veulerie de leur époque et que c'est pourrait d'ailleurs définir le dandysme comme ça. Le dandysme, ce serait l'art de résister à la veulerie de son époque et c'est donc un art toujours contemporain, intempestif et toujours contemporain. On y retrouvera la conversion socratique, l'idée qu'avant Socrate et après Socrate, quand on le rencontre dans les rues d'Athènes, la vie n'est plus la même, et qu'avant Diogène, après Diogène, la vie n'est plus la même, ou Aristide de Cyrène et quelques autres, que la rencontre du philosophe est l'occasion d'une conversion, avant que ce mot ne devienne le mot théologique que vous savez, la conversion chrétienne par exemple, c'était un mot du vocabulaire philosophique, il y avait une espèce de vie triviale avant, et puis la rencontre d'un philosophe, et puis la vie philosophique après, celle qu'on se construit, celle de la sculpture de soi, on rencontrera ça, on retrouvera le tonneau de Diogène, l'équivalent du tonneau de Diogène. Vous savez, je vous avais dit que c'était pas un tonneau, puisque le tonneau était une invention gauloise, donc postérieure à la vie grecque, turque d'ailleurs précisément, à Sinope, mais grecque ensuite à Athènes, de Diogène, qui vivait plutôt dans une grande jarre, dans une amphore. Mais la petite cabane de taureau, ce sera l'équivalent du tonneau de Diogène. La maison de Concorde, qui est la maison des Mersonnes dont nous parlerons, est aussi un lieu philosophique, c'est aussi un nouveau dispositif, ce sont les nouveaux dispositifs que je vous proposerai. On y retrouvera l'équivalent du jardin d'Épicure, du jardin épicurien, cette fameuse communauté de gens qu'on appelle les transcendantalistes américains. Je vous expliquerai ce gros mot, la relation qu'il a avec le transcendantal chez Kant, c'est pas bien compliqué, vous verrez. Et il y a autour de cela, à Concorde, aux États-Unis, sur la côte Est, une communauté philosophique dont je vous parlerai, dont nous parlerons, qui sera l'occasion de remettre en avant ces grandes figures un petit peu oubliées. On y verra comment la frugalité et l'ascèse sont toujours des logiques d'actualité et que l'hédonisme, ça n'est pas le consumérisme, que l'hédonisme, c'est même très exactement l'antidote au consumérisme, que le consumérisme, c'est l'avoir et que la philosophie hédoniste, c'est l'être. C'est donc très exactement opposé. Cette frugalité-là, elle est mise en scène par les philosophes dont nous parlerons. Donc on changera de dispositif hédoniste. Et on y retrouvera Stirner, par exemple, dans un café, dans les cafés de la gauche hegelienne, la fameuse petite cabane de taureau, la maison d'Emerson, le cloître nietzschéen de Lou Salomé, de Paul Rey, et puis de Nietzsche aussi. Et puis on verra aussi avec Jean-Marie Guyot, grand philosophe mort très jeune, très tôt, une belle fulgurance intellectuelle, comment se constitue la radicalité existentielle et qui nous échoit aujourd'hui, avec laquelle il faut bien que nous fassions quelque chose. Je vous remercie pour cette année. Je vous disais que les nihilistes russes étaient difficiles à trouver. On peut retrouver aux éditions de Moscou, les éditions du Progrès, des traductions qui ont été faites, mais c'est pas très intéressant parce que les textes ont franchement été mutilés. Donc j'ai un peu renoncé à travailler sur ce corpus-là parce qu'il n'est pas disponible en langue française et parce que ce qui est disponible en langue française n'est pas très intéressant, c'est totalement caviardé. Donc j'ai laissé de côté les quelques ouvrages que j'avais de ceux dont je vous ai parlé, de Broliubov, Pissarev et Tchernychevski. En revanche, ces trois-là ont fait l'objet d'un choix de texte qui est bien fait dans une édition faite par Vanda Banour aux éditions Aubier Montagne. Ça s'appelle tout simplement Les Nihilistes Russes, une belle introduction, et puis des choix de texte pas commentés, mais enfin, un travail que vous pouvez faire vous-même. Sur le Crystal Palace, sur cette métaphore, sur cette architecture qui est l'occasion de dire philosophiquement une époque, de dire une nouvelle modernité, et vous avez des renseignements dans une belle histoire de l'architecture et de l'urbanisme moderne de Michel Ragon. Il y a trois volumes. Le premier est sous-titré Idéologie et pionnier, 1800 et 1910. C'est illustré. C'est un travail extrêmement intéressant. Michel Ragon est un historien de l'architecture, de l'art contemporain, est un anarchiste aussi. Il est monsieur extrêmement sympathique et qui a fait un très beau travail qui vous permet de voir à quoi ressemblent les projets de Paxton, les projets d'urbanisme, les projets de périphériques couverts qu'il avait, enfin, un personnage assez extravagant. Et puis l'aspect hyper moderne de cet individu, la radicalité qu'il installe au cœur même de l'architecture de son temps, avec son Crystal Palace. Et puis la littérature russe dont je vous ai parlé, le Père et Fils et de Turgenev se trouve dans les romans et nouvelles complets de la Pléiade, tome 2. Et vous y trouverez ce texte passionnant. C'est un joli roman extrêmement intéressant. La figure de Bazarov est assez désespérante mais intéressante. Et puis Dostoïevski, dans cette traduction de la Pléiade, c'est pas forcément la meilleure, mais enfin, je suis pas habilité à juger des traductions, mais je me souviens d'avoir eu une conversation avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui fait les traductions de Dostoïevski chez Actes Sud, et qui lui montre que la langue de Dostoïevski a été aussi massacrée par des gens qui ont voulu lui donner une formule plus littéraire que ce qu'était la sienne, qui était une formule beaucoup plus brutale. Et les traductions d'Actes Sud me paraissent plus intéressantes, mais alors après on se perd dans les titres même qui changent. Moi j'ai gardé cette édition-là, hein. Vous trouvez ça dans le volume qui s'appelle L'Adolescent, et c'est titré ici Le Sous-sol. Petit texte, extrêmement intéressant aussi, et qui est un texte de romancier philosophe, si on peut dire ça, de Dostoïevski, qui fait de la philosophie dans ses romans. Je vous invite à lire ou à relire, évidemment, les frères Karamazov au Crime et Châtiment, sur la question du mal, de la radicalité du mal et des moyens de s'en défaire, ou des moyens, des impossibles moyens de s'en défaire, bien plutôt. Voilà pour la bibliographie.
Ainsi s'achèvent les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Prise de son, Valérie Lavallard. Réalisation, Véronique Villard.